Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors ce soir, le sujet est plutôt triste. Évidemment, ce n'est jamais d'affaires très, très, très joyeuses dont on parle à Mémoire d'archives. Parce que, bon, j'imagine que les archives, en général, seraient capables d'offrir des moments plus humoristiques, plus joyeux peut-être. Mais évidemment, j'ai choisi la recherche dans les archives judiciaires et bon, ça arrive à l'occasion qu'on trouve des faits cocasses. On en a vu ensemble et on va en voir d'autres, mais généralement, les archives judiciaires, ben, c'est parce que ça va pas bien que c'était créé à l'époque et que ça l'est toujours. Que ce soit un conflit de voisinage, un conflit entre voisins, ou que ce soit un meurtre, un massacre, évidemment, ça sonne pas avec le mot « joyeux », hein, évidemment. Mais ce soir, c'est particulièrement triste parce que, en tout cas, mes recherches ont donné comme résultat, pour l'année 1884, plusieurs, en tout cas, il y en a quatre, quatre cas d'assassinat d'enfants, plus un cinquième qui date de 1885. Et puisque ça se suit dans le temps, on va parler des cinq ce soir, mais principalement des quatre qui ont lieu en 1884. Est-ce que c'est un record? Je sais pas. Parce que, comme je vous dis, ma recherche, je vise le maximum d'homicides. Dans mes recherches, pour essayer d'en trouver le plus possible. Mais pour l'année 1884, comme jusqu'en à peu près 1962, on n'a pas de résultat. Il n'existe pas de liste pour nous dire il y a eu tant de meurtres à telle année et tant. Donc, on peut pas. Je connais pas le total. Donc, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y a eu ces quatre-là? Ou il y en a eu plus? Ou il y en a eu. On ne sait pas. Même des fois dans mes recherches, je suis tombé sur des résultats qui disaient qu'il y avait eu tant de meurtres et moi j'en avais trouvé plus. Donc, soit qu'on se trompe dans l'interprétation du mot homicide ou il y a quelque chose, je veux dire comme Jean-Luc Mongrain disait à l'époque, check l'arbitre, il y a quelqu'un qui me frappe, il y a quelque chose qui se passe là. Mais bon, bref, ce soir c'est l'assassinat de plusieurs enfants et bon, ce sont des, pour la grande majorité, ce sont des néonaticides. On va y revenir à la fin de la balado. Ça sera l'occasion d'en profiter justement pour en parler. C'est quoi le néonaticide? Principalement, on va dire tout de suite que le néonaticide, ben, c'est le meurtre d'un bébé dans ses premières 24 heures de vie. Et dans la presque totalité, c'est la mère qui est la tueuse dans ce cas-là. Donc, ce qui est aussi terrible, je pense, dans le cas de ce soir, c'est que non seulement ce sont des enfants, cinq cas, cinq dossiers, mais aucun d'entre eux n'a été résolu. Donc, c'est assez triste. Et pour la plupart, les enfants n'ont pas été identifiés, évidemment. C'est sûr qu'un bébé abandonné, aujourd'hui, que ce soit dans une benne à ordures, parce que c'est souvent le cas, on va le voir, là, je n'invente pas. Les bébés néonaticides, quand on entend un bébé retrouvé dans les ordures, ben, c'est presque automatique, posez-vous pas de questions, c'est presque automatiquement un néonaticide. Donc, pour le profil, ça nous aide beaucoup dans la recherche, si on veut. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on fait tout, on a l'ADN, on a plusieurs moyens pour essayer de retrouver la mère et, recréer le contexte autour de la scène de crime. Mais en 1884, par exemple, si on trouve un bébé sur un banc d'église, comment vouliez-vous qu'on sache d'où il vient? C'est assez difficile, j'imagine, pour les enquêteurs. Donc, c'est pour ça, probablement, que la plupart des néonaticides sont demeurés non élucidés. Il y en a quelques-uns, par exemple, qui ont été résolus. Il y a même eu des condamnations, et on appelait ça, à l'époque, dans les journaux, infanticide. Pour ceux et celles qui sont habitués avec la recherche dans les journaux, ne cherchez pas néonaticide, ça n'existait pas, le terme est apparu beaucoup plus tard. Même on essaie encore de l'inculquer aujourd'hui parce qu'il est plus explicite. Parce que infanticide, c'est aujourd'hui c'est considéré comme le meurtre d'un enfant. Un enfant, mais beaucoup plus vieux que 24 heures, donc c'est plus un bébé. Généralement. Infanticide, ça veut dire qu'il a été tué par un membre, c'est-à-dire par un adulte qui n'est pas un membre de la famille. Si c'est un membre de la famille, à ce moment-là, on parle de filicide. Donc, on s'attaque au premier cas. Comme je le disais, le premier cas, comme les autres, l'enfant n'a pas été identifié. On ne sait même pas si c'est un petit garçon. Mais on sait que ça s'est passé à Montréal. On ne sait pas le nombre de scènes de crime non plus. C'est un dénommé, on va voir un peu les quelques circonstances qu'on a été capable d'éclaircir, si on veut, de mettre sur la table. C'est un dénommé Jacques Libouron. Je ne sais pas c'est quoi ce nom-là, mais en tout cas, Libouron, comme ça se prononce, qui a trouvé dans une ruelle communiquant avec le chemin de la Côte des Neiges le cadavre d'un enfant nouveau-né. C'est ce qu'on sait. Et tout ce qu'on sait aussi, c'est que le petit cadavre était renfermé dans une petite boîte de bois. C'est tout. La source vient de La Patrie, qui a été publiée le 9 janvier 1884. Donc, le décès est considéré comme le 7 janvier 1884. Et ça reste non élucidé. On n'a aucun autre détail, malheureusement. Le cas suivant, c'est quelques mois plus tard, le 11 mai 1884. Cette fois à Québec, donc le 11 mai, il y a un paquet qui a été découvert derrière l'Hôtel-Dieu de Québec, donc l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, à un endroit difficile d'accès, c'est ce qu'on a raconté. 8 jours plus tard, le paquet était encore là, donc le paquet a d'abord attiré l'attention, mais personne n'a osé y toucher, c'est assez curieux. Mais bon, peut-être qu'on avait peur ou on ne voulait pas y aller. Je ne sais pas quelle croyance ou quelle horreur, quelle histoire d'horreur on s'est racontée pour ne pas y aller. Mais bon, quand on a fini par y aller et découvrir le paquet, on a mis les efforts nécessaires pour aller voir cette fois-ci ce qu'il contenait. Après 8 jours, là, vraiment, on n'était plus capable d'attendre. Et en le développant, on a vu que le paquet contenait le corps d'un enfant en état de décomposition avancée. Et voilà, c'est tout. Aucun sexe de l'enfant, on n'a rien, mais vraiment rien. C'est triste. 7 jours plus tard, le 18 mai, toujours à Québec, il y a 2 femmes qui marchaient à l'angle des rues Desfossés et Saint-Roch à Québec, qui ont croisé une autre femme qui tenait un paquet sous le bras et qui a immédiatement attiré leur attention. OK, on va voir pourquoi. Un peu plus tard, elles ont croisé la même femme, et cette fois sur la rue Saint-Dominique, pardon. La suspecte, cette fois-ci, leur a avoué tout bonnement comme ça que le paquet qu'elle tenait un peu plus tôt contenait un enfant qu'elle venait tout juste de noyer en le jetant dans une bouche d'égout. Hein? Rien de moins. Elle s'est vantée d'avoir tué un enfant, tout ça. C'est quand même assez spectaculaire. Et sur ces mots, la femme s'est enfuie. On ne l'a jamais retrouvée. Donc, elle leur dit tout d'un coup comme ça, elle dit, « Quand vous m'avez vu tantôt, le paquet que je transportais, c'était un enfant que j'ai noyé. Puis, bye, c'est ça. » Et on ne l'a jamais revu, malheureusement. Le journal L'Événement à l'époque ne confirme pas que le cadavre a été retrouvé ou non. Donc, est-ce que c'est une plaisanterie? Ça m'étonnerait, parce que ce genre de plaisanterie-là, à moins d'avoir une case en moins, c'est pas le genre de poisson d'avril à faire, même si on n'était pas encore, si on n'était pas en avril. Donc, je l'ai quand même inscrit comme un homicide, même si on n'a jamais retrouvé le corps et tout ça, parce qu'il y a quand même une certaine crédibilité, si on veut. Mais j'hésite, évidemment, là, j'aurais pu l'enlever, mais je pense que c'est un cas qu'on peut conserver. Ensuite, on se transporte au 11 août, mais toujours en 1884. Et on est encore à Québec. Cette fois-ci, c'est le corps d'un nouveau-né qui a été trouvé à l'intérieur de la palissade ou du mur de l'enceinte du cimetière Sainte-Brigitte, l'ancien cimetière qu'on appelait du choléra pour les gens de Québec, vous allez savoir probablement ce qu'il y en est, qui était situé sur la rue de la Salaberie à Québec. Le lendemain de cette découverte-là, le journal L'Événement a écrit ceci. Les infanticides deviennent de plus en plus fréquents à Québec, où cependant ce genre de crime était si rare autrefois. Et je ferme les guillemets. Donc, juste par cette remarque-là dans le journal, on s'aperçoit bien que là, les infanticides, c'est-à-dire le néonaticide, commençaient à prendre beaucoup de place. Alors, ça se multipliait, donc assez pour retirer l'attention. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Ils sont difficiles à... Dans mes recherches, à une certaine époque, ça s'accumulait tellement que ça représentait quasiment 10% de tous les homicides commis au Québec. Et ça l'a chuté un peu par la suite, là. Mon dos, c'est difficile à chiffrer. Là, peut-être dans les années 20-30 et tout ça, ça a commencé à baisser. Ils sont plus difficiles à trouver. Je pense pas que ça ait diminué. Parce que, au contraire, le néonaticide, je pense pas que ça ait diminué, mais sauf que je vais dire comme le docteur Labbé, qui en 1994, lui, a travaillé durant plus de 40 ans avec la SQ auprès des enfants maltraités. Et il avait dit dans un journal en 1994 qu'il y en avait beaucoup plus qu'on voulait le laisser croire parce que souvent le diagnostic est masqué par autre chose, c'est-à-dire par exemple un enfant secoué et tout ça. Mais si l'enfant est secoué en moins de... Je prends un exemple là, comme ça, là, fictif, mais si c'est un enfant qui n'est pas âgé, qui est âgé de moins de 24 heures, mais qu'on constate qu'il a été secoué, donc, on va le classer dans un bébé, la catégorie, si on veut, des bébés secoués, alors qu'on parlera pas de néonaticide. Mais le néonaticide, c'est quand même important de mettre les homicides dans les bonnes catégories, parce que si on veut les étudier comme il faut, avoir les pourcentages et tout ça, c'est une base dans notre société que d'avoir au moins des données fiables. Ensuite, le cinquième et dernier cas non élucidé. Comme je l'ai dit, le cinquième, là, on se retrouve en 1885, le 15 mars. Écoutez, cinq d'affilée, c'est juste, j'en reviens pas. Mais cette fois-ci, au moins, on a le sexe du bébé. Il était non identifié, mais on sait que c'est une petite fille. Mais dans ce cas-ci, ce serait peut-être pas un néonaticide. En tout cas, on va y revenir. Ça s'est passé à Nazareth, près de Rimouski, près de l'asile de Rimouski, au fond. Le 15 mars 1885, un bébé de sexe féminin, donc, a été constaté. Le coroner Bello est arrivé à la conclusion que l'enfant a trouvé la mort suite à une asphyxie par strangulation au moyen d'une ligature placée et serrée autour du cou de la défunte. Et je ferme les guillemets, parce que c'était ses paroles ou ses écrits. Le genre utilisé dans cette phrase laisse entendre évidemment que la victime était de sexe féminin. Hein, c'est pour ça qu'on sait que c'est une petite fille, parce qu'il a écrit, mettons, d'une ligature placée et serrée. Bon, voilà. Et le titre de l'article souligne qu'il s'agissait d'un infanticide. On sait en tout cas que l'enfant a été retrouvé près de l'asile à Nazareth. Et on sait aussi que 4 témoins ont été entendus par le coroner Bello, c'est-à-dire Joseph Labrie, le sergent Samuel Murray, Jules Linteau et Philippe Wells. Et ce dernier, Wells, il était médecin à Québec. Pour leur part, les jurés du coroner ont rendu un verdict à l'effet que la fillette avait été tuée par une ou plusieurs personnes inconnues. Et voilà, on n'est pas tellement plus avancé, malheureusement. Donc, ces 5 cas de mystère, au fond, il y en a qui sont tellement mystérieux qu'on se demande s'il y a vraiment eu homicide. On les conserve quand même au cas que... ça pourrait développer sur autre chose. Évidemment, il y en a qui vont peut-être me critiquer parce qu'il y a des cas que je n'ai pas conservés plus tard, pas nécessairement dans le néonaticide, là, mais d'autres crimes, parce que l'homicide en tant que tel n'avait pas été prouvé. Il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés, donc c'est plus des disparitions. Il y en a d'autres que c'est l'enquête de coroner qui n'était pas concluante sur la cause du décès, donc bref. Bon, on va se laisser sur au moins une explication de ce que c'est le néonaticide, pour être plus précis, si on veut. Donc, c'est en fait, comme je le disais au début, le meurtre d'un enfant nouveau-né, donc 24 heures et moins, et il est tué par sa mère. Alors, je vais être prudent sur mes propos, mais généralement, la mère est une jeune femme diminuée, et vient d'un milieu défavorisé, et elle tente de dissimuler sa grossesse. Là, évidemment, on parle de profilage un peu, de catégorie, donc s'il y a un certain généralisme dans ça, évidemment, parfois on dit qu'il ne faut pas généraliser, mais des fois c'est bon aussi pour avoir une catégorie et mieux reconnaître ensuite. Et il y a des catégories aussi dans les homicides qui sont mieux définies que d'autres. Le néonaticide est assez clair quand même, parce que d'un néonaticide à l'autre, du moins pour ceux qui ont été résolus, c'est toujours ça. C'est toujours la mère qui tue dans les premières 24 heures. Elle a nié sa grossesse. C'est bon, bref, tout ça. Et je continue. Il n'est donc pas rare de retrouver des petits corps dans des lieux insensés, comme les rebuts, donc des poubelles, comme je le disais tantôt, ou même un tas de fumier. Là, je vous dirais que le tas de fumier est peut-être relié à une certaine époque, c'est moins le cas aujourd'hui, parce que évidemment, les tas de fumier faisaient office à une certaine époque de place à déchets aussi. On en retrouvait même dans les villes, parce qu'il y avait des chevaux partout. Donc, il fallait ramasser le fumier puis le mettre quelque part, ça c'est évident. Donc, il y a une tendance à mettre les bébés donc sur les tas de fumier ou dans les déchets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'imagine, c'est ma déduction, en tout cas, après avoir pensé, réfléchi et vu plusieurs cas, je pense que ça vient avec le déni de grossesse, dans le sens que le bébé pour la mère n'existe pas. Elle l'a tellement nié depuis le début que quand il vient au monde, elle veut juste qu'il disparaisse. Donc, elle s'arrange pour, dans notre langage à nous, pour le tuer, mais pour elle, c'est comme pas nécessairement un meurtre, parce qu'elle veut juste pas le voir. Donc, elle s'arrange pour qu'il meure, et ensuite, elle s'en débarrasse, et bon, pour elle, le mettre au déchet, c'est pas plus mal qu'un autre endroit. Donc, elle s'en débarrasse, elle veut le jeter. Donc, le jeter, les déchets. Alors, le tas de fumier, à l'époque, était pas tellement loin. Aujourd'hui, ben, moins, là. Il pourrait peut-être arriver un cas dans l'actualité. Je le souhaite pas. Mais généralement, ce qui arrive, c'est dans les déchets. On peut en retrouver ailleurs aussi, là. Ça, c'est pas nécessairement le déchet. Je sais pas dans quel pourcentage. Mais c'est déjà arrivé qu'on en a retrouvé des bébés dans des bennes à ordures, des poubelles, des bons brefs, tout ça. Mais on en retrouve aussi dans d'autres conditions. Et mes recherches, ce que ça démontre sur les homicides, c'est que le néonaticide existe depuis pratiquement les tout débuts. Ce qui est étrange, c'est que, bon, en tout cas, le premier que j'ai répertorié, le plus ancien, en fait, date de 1708. Pourquoi il n'y en a pas eu avant? Je ne sais pas. Est-ce que c'était caché? Est-ce qu'on a réussi à cacher le meurtre des bébés avant ça, s'il y en a eu? Peut-être. Ou il n'y en a tout simplement pas eu parce qu'il n'y avait pas assez de population. Puis on sait que le crime augmente avec la population, évidemment, les agglomérations. C'est sûr que vous trouverez beaucoup plus de crimes à Montréal que dans un petit village de 500 personnes. C'est évident. Et ça ne sera pas tout à fait le même type de crime non plus. Donc, quand survient un meurtre dans un village de 500 personnes, vous allez n'entendre parler en s'il vous plaît, parce que tout le monde va être au courant. On a vu aussi qu'il y a des exceptions dans le néonaticide, dans le sens que c'est pas toujours la mère, mais c'est rare. Il faut prendre pour acquis. Vous savez, dans le le crime et l'étude des homicides, si vous regardez des documentaires à la télé et vous regardez toujours les mêmes crimes les plus célèbres et tout ça, vous allez vous faire une image des homicides d'après seulement les crimes les plus célèbres. Et ce n'est pas fidèle à la réalité, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'homicides que ça. Et ils sont différents. Pourquoi qu'ils vont être plus attirants? C'est sûr qu'il y en a qui sont plus attirants parce qu'ils sortent du lot. Mais à force d'étudier ceux qui sortent du lot, ben vous n'aurez pas une image exacte de ce que c'est les homicides exactement. Et c'est la même chose pour le néonaticide. Si vous avez une ou deux exceptions que c'est pas la mère qui l'a tué, vous allez rester avec l'image que « Ah ben oui, mais ça peut arriver par des hommes. Oui, mais c'est extrêmement rare. » Mais juste pour le souligner, ben oui, c'est déjà arrivé. Même en septembre 1861, Alexander Burns, un père maltraitant de 45 ans, lui, il s'en était débarrassé d'un de ses poupons. Mais pourquoi? Parce qu'il était le père, il avait couché avec sa fille. Donc, c'est un bébé de l'inceste. Alors, c'est ce qui expliquait peut-être pourquoi c'est lui qui s'en était chargé. Mais, d'un autre côté, ce ne sont pas tous les pères incestueux qui vont tuer leur enfant si leur fille tombe enceinte. Donc, il faut faire attention dans ça. Donc, le profil le plus répandu, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une jeune mère démunie qui souffre de déni. Et souvent, le bébé est retrouvé dans un endroit insalubre parce que, ben, pour la mère, cet être vivant n'existe pas, comme je le disais tout à l'heure. Elle s'était forcée durant des mois à nier et à dissimuler son existence. Donc, pour elle, c'est juste une suite logique ou un aboutissement de ce qu'elle cache, puis après ça, ça va être correct. C'est ce qu'elle pense, évidemment, quand j'utilise le mot « correct ». Et la plupart de ce que j'ai remarqué, c'est que quand on réussit évidemment à identifier la mère, c'est qu'elle est rarement âgée de plus de 25 ans. Donc ce sont toujours ou presque toujours des femmes âgées de 25 ans et moins. Et on n'est pas les seuls, juste pour se donner une idée, parce que l'être humain va commettre des crimes, en tout cas on pense que oui, certaines régions peuvent influencer peut-être certaines personnes à commettre plus de crimes. On parle souvent des États-Unis, mais à l'heure où on se parle, les États-Unis ont une approche différente des armes à feu, premièrement, et ils sont 300 millions de population, au moins, alors que nous, au Québec, on est 8 millions. Donc, les chiffres ne se comparent pas. Quand on dit qu'il y a beaucoup plus de meurtres, oui, mais il faut y aller avec la proportion. Des fois par 100 000 habitants, là, quand on a les chiffres, évidemment. Mais juste pour vous donner une idée, il y a eu un article de journal qui a été publié dans le journal de Waterloo à la fin des années 1800. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, mais déjà à cette époque-là, on répertoriait 217 néonaticides ou des infanticides aux États-Unis, juste pour l'année 1890. Aïe aïe! C'est sûr que les États-Unis, c'est gros, c'est grand, mais 217 pour une seule année, et ça, c'était une époque où il n'était pas 300 millions. Il était quand même plusieurs millions à ce moment-là, mais quand même. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi les chiffres, mais ça doit être épouvantable. Alors, on va se laisser là-dessus pour ce soir. Le néonaticide, ben retenons que c'est un type de crime assez particulier. C'est dans la catégorie des homicides personnels, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le crime organisé, par exemple. Puis ça n'a rien à voir aussi avec un désir de tuer. C'est une mère, généralement, qui est démunie, peu éduquée, qui ne sait pas quoi faire, qui est dans un système où une famille peut-être mal encadrée. Elle ne sait pas quoi faire, donc sa seule solution, plutôt que d'en parler parce qu'elle a peur, elle a peur de mal s'exprimer peut-être, elle a peur d'un paquet de choses, c'est donc son réflexe, c'est de cacher le plus longtemps possible en espérant que personne ne remarque rien. Elle change ses habitudes de vie, évidemment, pour ne pas être remarquée. Il y en a qui laissent tomber les études, qui ne sortent plus, ils vont sortir seulement après l'accouchement, quand tout est fait. Mais voilà, c'est un crime de tristesse. Et si ça a rapport directement avec la pauvreté et le manque d'éducation, mais peut-être que de ce côté-là, il y aurait quelque chose à faire pour améliorer tout ça. Donc, si on prend les jeunes mères ou on éduque les jeunes filles très, très tôt, je ne sais pas comment qu'on pourrait s'y prendre, évidemment. Je n'ai pas... j'étudie les homicides, mais je n'ai pas les solutions. Voilà. Donc, probablement que le néonaticide, c'est un crime qui serait possible de prévenir, en tout cas en grande partie. Donc voilà, c'est triste. On en a vu cinq dossiers ce soir d'enfants qui ont été assassinés à une époque lointaine, oui, mais ça s'est quand même passé chez nous. Et faut y penser, hein, ces petits bébés-là qui étaient retrouvés un peu partout et qui n'ont jamais eu la chance de grandir.